C'est donc ce mardi que l'INSEE nous dira l'ampleur du dérapage de nos comptes publics et donc des efforts que le gouvernement va demander aux différents acteurs économiques. Bonjour Charles.
Bonjour David, bonjour tout le monde.
Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Le président Macron a déjà prévenu, c'était vendredi quand il était en déplacement à Bruxelles, qu'il faudrait, ce sont ses mots, compléter cet effort budgétaire. Dans le même temps, on a Bruno Le Maire qui exclut, il l'a dit, le temps de la rigueur. Qu'est-ce qu'il nous dit, le ministre de l'Économie? Nous dit la responsabilité, ce n'est ni l'austérité, ni le laisser-aller. Sauf qu'on se dit que le statu quo, il est intenable aujourd'hui, au vu des chiffres qu'on aura demain, 5,3, 5,5, 5,6% du déficit public pour 2023.
Alors, c'est intenable, David, très certainement. Et donc, on va, a priori, passer du quoi qu'il en coûte de Bruno Le Maire au quoi qu'il en coupe de Bruno Le Maire, qui va être obligé, évidemment, de couper dans les dépenses. Et donc, on va parler que de quoi qu'il en coupe dans les prochains mois. Alors, première coupe assez naturelle, sur laquelle, il y a une, si vous voulez, il y a une évidence analytique. C'est que nous sortons, comme l'a annoncé le ministre, du bouclier tarifaire, du bouclier énergétique. Et donc ça, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui ont été dépensés ces derniers mois, qui ne seront plus dépensés ces prochains mois. Donc cette sortie du bouclier tarifaire, ça fait une coupe qui, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'elle est indolore, mais en tout cas, elle n'est pas aussi douloureuse qu'évidemment de couper directement dans des dépenses auquel on est habitué depuis des années ou des décennies. Couper 20 milliards d'euros de bouclier tarifaire, c'est pas du tout la même chose que de couper 20 milliards d'euros sur la politique de l'emploi, dont le budget est de 20 milliards d'euros.
Oui, justement, 20 milliards d'euros, c'est le chiffre qui a été annoncé par Thomas Cazenave, ministre délégué aux comptes publics, sur les efforts demandés pour 2025, en plus des 10 milliards de cette année. Pardon, là, on reste sur 2024, passer de 5,6%, 5,5% de déficit public 2023, chiffre qu'on aura donc ce mardi, l'objectif cette année du gouvernement, c'est 4,4%. Passer de 5,6 à 4,4, pardon, mais c'est quasiment mission impossible. Ou là, c'est une vraie cure d'austérité parce que 1,2 point de baisse du déficit, ça fait quasiment 20 ou 25 milliards d'économies à la clé.
Exactement, exactement. Non, non, mais
Dès
l'effort est.
2024.
Non, mais je sais, David, l'effort est absolument considérable.
Sauf à
Je vous rappelle.
s'asseoir, ça s'asseoir sur ces objectifs de réduction de déficit.
À moins que le quoi qu'il en coûte qui devient le quoi qu'il en coupe redevienne un quoi qu'il en coûte si, par exemple, l'affaire ukrainienne s'envenimait et qu'on était obligé, en rentrant dans une économie de guerre, de se comporter comme une économie de guerre et donc d'avoir des politiques d'économie de guerre. Pour le moment, on n'y est pas. En tout cas, ça serait la seule manière indolore et d'avoir recours à de l'argent facile serait un cas d'aggravation du conflit. Il va se passer plusieurs choses dans les mois qui viennent et dans les semaines qui viennent. D'abord, nous avons les élections européennes. Et ces élections européennes, politiquement, il est difficile d'annoncer une austérité majeure ou massive avant les élections européennes. Il ne faut pas désespérer l'électeur. Et l'Union européenne ne peut pas être perçue par les électeurs comme le père Fouettard qui nous demande de faire une cure d'austérité. Vous remarquerez d'ailleurs la discrétion des institutions européennes sur la dette des États et sur la situation financière, notamment de notre pays. Donc on voit très bien que cette période d'élection européenne permet de geler un petit peu la situation. Autre élément important, vous allez avoir le 26 avril la révision de la note souveraine de la France par l'agence Fitch et l'agence Moody's, me semble-t-il, qui vont donc réviser la note. Va-t-on être dégradé ou pas dégradé? Telle est, that is the question, se posent les marchés et surtout Bercy et le gouvernement et le pouvoir politique en France. Mon analyse, c'est qu'a priori, la France ne devrait pas être dégradée pour la simple et bonne raison que les notations souveraines sont avant tout un acte politique et qu'il n'y aura pas d'acte de défiance de la part de ces deux grandes agences de notation dans une période aussi sensible qui voit d'abord des élections européennes importantes se jouer et se dérouler d'ici le 9 juin et qui voit également un jeu géostratégique et diplomatique fondamental pour la place de l'Europe et du camp occidental mené par les États-Unis avec à l'égard de la Russie. Et donc affaiblir la France et le camp occidental par une dégradation de notes à ce moment-là, dans ce momentum-là, dans cette période-là, ce serait très certainement envoyer un double signal désastreux et pour les électeurs et pour la Russie avec laquelle nous sommes dans un état de tension, dirons-nous, exacerbé. Donc, on va rester, a priori, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, dans cette espèce de nini, David, relativement bien annoncé par Bruno Le Maire, qui dit qu'il n'y aura pas vraiment d'austérité majeure et massive, qu'il y aura quand même des coupes, mais pas un quoi qu'il en coûte total. En revanche, la situation va se dégeler très certainement, on va dire, à l'été 2024.
Et là, on n'y coupera pas, encore une fois, d'un point de vue plus économique que politique. Il va falloir, encore une fois, faire de gros efforts, de gros sacrifices, à demander à tous les acteurs financiers, enfin économiques plutôt, les entreprises, la sécurité sociale, les collectivités locales. Et là, on ne pourra pas y couper. C'est un peu l'heure de vérité pour nos comptes publics, quand on est à ce niveau-là de déficit, avec une croissance
Oui.
qui sera d'un peu moins d'un pour cent, a priori, cette année.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, David, on va devoir se poser fondamentalement la question de la taille et du périmètre de l'État-providence français. Alors, Bruno Le Maire, il l'a un tout petit peu annoncé en disant, je le cite, j'avais noté sa phrase, ceux qui travaillent n'en peuvent plus de payer pour tout et pour tout le monde. Ceux qui travaillent n'en peuvent plus de payer pour tout et pour tout le monde, c'est ce qu'il a dit il y a un jour ou deux. Ou hier, je ne sais plus. Bon, bref, c'est très symptomatique. Ça préfigure une réflexion sur le périmètre de l'État-providence. Et c'est une réflexion qui est indispensable. C'est-à-dire que c'est quoi la solidarité? C'est quoi l'assistanat? Et c'est deux choses complètement différentes. Et entre la juste solidarité et l'assistanat, eh ben, vous avez 60% de dépenses publiques sur PIB. Et donc la France est à la fois le pays le plus taxé, le pays où la dépense publique est la plus importante, et le pays où le service rendu aux citoyens n'est pas forcément au rendez-vous. Je pense à l'hôpital, où effectivement nous avons une forte dégradation de la qualité des soins, alors que pourtant les coûts augmentent. Donc évidemment, il y a une révision complète de notre modèle à mener. Est-ce que
Oui, mais
Bruno
ça
Le
prend du
Maire
temps, pardon,
va...
mais ça prend du temps. Des coupes, quand on dit on coupe au rabot 5 milliards d'euros, comme le gouvernement le fait sur l'ensemble des ministères sur 2024, ça peut être fait quasiment dans l'instant. Revoir le périmètre de l'État, c'est un travail de longue haleine.
Alors, vous avez le périmètre de l'État et le périmètre de la dépense sociale. Donc, le périmètre, pour vous donner un ordre de grandeur, le périmètre de l'État, c'est 400 milliards d'euros de dépenses, c'est 300 milliards de recettes, c'est 100 milliards de, c'est plus de 100 milliards de déficit et c'est 450 milliards de dépenses. Et puis, vous avez la dépense sociale, les fameuses branches de la sécurité sociale, et ça, c'est 900 milliards d'euros de dépenses. Pour un total de dépenses publiques de 1 200 1 300 milliards d'euros, soit plus de 60% du PIB. Ça, c'est la réalité de la typologie de dépenses en France. Donc oui, David, on ne va pas couper à faire du quoi qu'il en coupe, mais ce quoi qu'il en coupe, il va à un moment donné se focaliser aussi sur ces 900 milliards dont je vous parle, qui est la dépense sociale. Et donc, on va parler des retraites, mais je parle des retraites, des retraités à la retraite aujourd'hui. Donc, on va parler des pensions de retraite, pas des futures retraites. On va parler des gens au RSA et on en parle déjà en les mettant, en les forçant à faire un certain nombre d'heures de travail pour que ceux qui peuvent en sortir en sortent. On va parler de la diminution des allocations chômage. Donc, on va réduire la dépense sociale. Et mon pronostic, c'est que l'action du gouvernement, à partir de l'été 2024, va s'attacher à réduire la dépense sociale et à réduire le périmètre de l'État-providence. C'est une analyse, ce n'est pas forcément une vérité à prendre évidemment au pied de la lettre, mais mon analyse me conduit à penser qu'aujourd'hui, on a réduit à peu près ce qu'on pouvait réduire. Au niveau des dépenses pures de l'État, surtout si on doit s'engager un petit peu plus en Ukraine, ça va coûter plus cher aux finances publiques, va rester ces 900 milliards de dépenses sociales qui risque d'être attaqué fortement à partir de l'été 2024.
Ouais. Après, on finit là-dessus, Charles, mais des coupes de cette année déjà prévues 10 milliards, peut-être plus, il faut compléter l'effort, comme le dit le chef de l'État. On sait que c'est un effet aussi potentiellement récessif sur l'activité. On a déjà une croissance qui n'est pas très folichonne, à moins de 1% pour cette année. On a François Bayrou ce week-end qui appelle à ne pas casser la croissance. Il y a ce risque-là aussi, on l'a vu dans les années 2010, quand il a fallu réduire à marche forcée les déficits, que ça avait tendance effectivement à casser la croissance. Et on a eu, sous François Hollande, on se rappelle, plusieurs années de croissance zéro.
Oui, David, mais vous savez, il n'y a aucune bonne manière de venir à bout d'une dette qui nous dépasse un peu. C'est-à-dire, pour résumer la situation, les conséquences de la faillite ou les conséquences de la politique à mener pour éviter la faillite sont sensiblement identiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous faites appel à l'ajustement monétaire, si vous avez votre banque centrale, ce n'est pas le cas. Nous dépendons de la BCE, la Banque Centrale Européenne, donc nous n'avons pas notre souveraineté monétaire permettant de faire un ajustement monétaire purement national, rien que pour nous, si vous voulez. Donc, en l'absence du levier d'ajustement monétaire, il nous reste juste le levier de la dépense et de la rentrée fiscale. Donc, on ne peut jouer que là-dessus. On ne peut jouer, sauf à sortir de l'euro et à revenir à la Banque de France et au franc, on ne peut jouer que sur nos rentrées, nos recettes et nos dépenses. Donc, jouer sur les recettes, c'est augmenter les impôts. On a une pression fiscale qui est la plus haute des pays de l'OCDE. Donc, c'est compliqué aujourd'hui d'augmenter significativement la pression fiscale, même si je pense qu'a priori, on pourrait voir tout à fait un débat sur l'augmentation de la pression fiscale au niveau des héritages, parce que ça, c'est pas des, si vous voulez, c'est de la fiscalité individuelle, hein. C'est pas une fiscalité de masse. C'est chacun y passe quand il y est confronté, mais c'est pas comme si j'augmentais la TVA demain pour tout le monde. Donc on n'est pas dans le drame collectif, on est dans le drame fiscal individuel. Donc on pourrait tout à fait voir à la marge quelques augmentations d'impôts ou de fiscalité, mais surtout une baisse de la dépense. Oui, cette baisse de la dépense, David, elle est récessive. Bien sûr, c'est moins d'argent injecté dans l'économie. Mais je rappelle
Et qui dit
que
moins d'argent injecté dans l'économie, on finit là-dessus, dit moins de recettes fiscales et donc un trou budgétaire plus important qu'il faut boucher et ainsi de suite. On voit la logique mortifère, entre guillemets, d'un point de vue
mais à un moment
économique.
donné, comment faites-vous pour sortir de cette spirale? Eh bien, soit vous avez le courage politique de sortir de cette spirale de manière ordonnée, tout en sachant que là, David, en fait, on n'y est même pas encore. Les quelques milliards qu'on annonce, en réalité, vont être tout juste suffisants. Et moi, je conclurai là-dessus, si vous me le permettez, pour payer les intérêts de la dette, basiquement, pour faire une cote mal taillée et que tout le monde nous comprenne, 3 000 milliards d'euros, si demain ça nous coûte 3% en moyenne, ça veut dire 90 milliards d'euros à trouver pour payer non pas la dette, pour rembourser non pas la dette, mais pour juste payer les intérêts de la dette accumulée depuis maintenant 40 ans, puisque le dernier budget excédentaire date de 1974. Ça fait pas 40 ans, en fait, ça fait 50 ans, excusez-moi, David.
Allez, analyse et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, salut.
Merci David, bonne semaine à
Toi
tous.
aussi.